Voilà, je poursuis ma réflexion, mon enseignement sur l'Église, que j'ai commencé dimanche dernier. Comme je le disais avec Arnaud, je suis en train de réécrire les bases des fondations de l'Église, l'organisation de l'Église. Et dans ce contexte, c'est important de bien comprendre qui est l'Église, que c'est que l'Église. Je vois beaucoup de littérature que je lis pour m'inspirer des autres unions d'églises, par exemple l'AKF, toutes sortes de littérature sur ce sujet-là. Et je vois qu'il y a beaucoup de pages décrites pour essayer d'expliquer des choses qui sont complexes, qui posent problème entre les pasteurs, les anciens, toutes sortes de choses. Là, j'ai encore lu 5 pages sur le sujet, alors qu'en 2 mots, on peut être clair, quoi. Donc, j'essaie, moi, de faire cet exercice de clarté, pour moi, mais pour vous aussi, de manière à ce qu'on comprenne qui on est. Nous avons beaucoup réfléchi ces dernières années sur nous en tant qu'individus. C'est la pile, ça recommence à... Non ? Non. En tant qu'individus, qui on est en tant que chrétien ? C'est vrai que nous savons que nous sommes une nouvelle création en Christ, ça nous le savons, mais que nous ne pouvons pas nous prendre pour des... et que nous sommes saints en Jésus-Christ, mais qu'en même temps nous ne sommes pas parfaits. Il suffit qu'on demande à notre conjoint respectif, on sait qu'on n'est pas parfait. Donc il y a une autre nature aussi qui est en nous, qui est encore charnelle, et donc nous sommes obligés de jouer sur ces deux natures en nous. Et bien, l'Église c'est pareil. Si on ne dissocie pas ces deux aspects, puisque l'Église c'est simplement le rassemblement de chrétiens, c'est une assemblée. Donc on a les mêmes natures dans l'Église qu'au niveau individuel. Et à partir de là, les choses se simplifient si on comprend ça. Je voudrais qu'on ouvre ce matin, parce que le message, c'est la relation entre le règne, entre l'Église, la question de l'Église, et le règne de Dieu. Le règne de Dieu, on va le voir tout à l'heure. Et pour ça, je voudrais introduire ce message avec 1 Corinthiens, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1er et verset 30, c'est Paul qui s'exprime donc ici en s'adressant à l'église de Corinthe. Il écrit dans le verset 30 que c'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ, qui de par Dieu, donc Jésus-Christ, par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. En tant que chrétien, nous ne pouvons pas nous glorifier de nous-mêmes, ça nous le savons, mais nous ne sommes pas toujours capables de le faire jusqu'au bout. Et quand on se glorifie soi-même, on va déjà vers une dérive qui nous pose problème. Nous ne pouvons nous glorifier que du Seigneur qui a tout fait, tout accompli pour nous. Or, une des difficultés que nous rencontrons, c'est le problème de la sagesse. Christ a été fait sagesse pour nous. Mais très souvent, nous voulons utiliser notre sagesse pour nous en sortir. C'est un des problèmes, une question de tous les temps qui s'est posée. Parce que la chute a amené beaucoup de problèmes, bien sûr. Nous étions dans fait pour être parfait. Dieu nous a créés de manière parfaite. Et dans cette relation avec lui et dans l'obéissance à sa parole, nous aurions pu vivre quelque chose de parfait, sans la mort, sans les maladies, sans toutes ces choses-là, sans les souffrances, sans tout ce que nous connaissons. Or la chute, bien sûr, est intervenue et a changé la donne, changé les choses. Mais l'homme a toujours recherché à retrouver cet idéal de perfection, ce qu'on appelle l'âge d'or, ce qu'on appelle le retour à l'Éden, voilà, au jardin d'Éden. Et l'homme a cherché des palliatifs, des sortes de soit des religions, soit des philosophies qui permettent de retrouver cet âge d'or. Certains l'ont cherché par l'astrologie. hein, par les Sumériens, donc là où est l'Irak actuellement, hein, c'est le berceau de l'astrologie. C'est vrai que là-bas, on voit très facilement les astres, hein, pas comme chez nous, il y a de pollution. On peut regarder, disons, le ciel et on voit tous les astres. Et il y a eu cette réflexion qui a amené l'astrologie de dire les astres ont peut-être une influence sur nous, bien sûr bénéfique et maléfique. Donc on cherche toujours à éviter les maléfices et à chercher les bénéfices. Et donc c'est la naissance, le berceau de l'astrologie. D'ailleurs, vous savez que les rois mages qui sont venus adorer Jésus venaient de l'Orient. Il y a d'autres peuples qui ont cherché à se sortir par la magie. La magie, c'est-à-dire d'avoir une force, une influence sur le naturel au travers d'influences magiques. Hein. Vous voyez, aujourd'hui, avec Harry Potter et tout ça, on essaye de raviver un petit peu ses connaissances pour pouvoir mieux vivre, pour être au-dessus des autres. Mais vous voyez, ce que ça donne souvent, c'est qu'on domine les autres et c'est pas très bien non plus. Et ça a été développé par l'Égypte. Les Égyptiens ont développé la magie au point où, quand vous sortiez de l'Égypte, vous étiez fouillé complètement pour vérifier si vous emmenez pas quelque chose, un secret magique, soit une formule ou quelque chose, parce qu'ils étaient très soucieux de garder tout ce qui est magie au sein de l'Égypte. Les Grecs, par contre, eux, ils l'ont cherché dans la philosophie. C'est quoi cette philosophie grecque? Et nous sommes héritiers des Grecs, puisque un grand littéraire, un grand écrivain français, Michelet, je crois, a dit que Athènes est venue à Paris, voilà, dans les 17e siècle. Donc nous héritons de cette recherche de la perfection par la philosophie, qui est une recherche par le discours. Discours, c'est-à-dire vous voyez, par exemple, le mot liberté, égalité, fraternité, qui est écrit sur tous les frontons de nos mairies, c'est un discours où on cherche un idéal qu'on pourrait atteindre par la raison. Et c'est pour ça qu'on élève la raison plutôt que les émotions, les sens et le matériel qui nous amènent toujours les problèmes. Les problèmes viennent toujours, voilà, un accident matériel, donc ça vient par le matériel. Donc il faut échapper au matériel et rentrer dans des idées. C'est l'idéologie qui est prédominante, pensant que cette idéologie, effectivement, va nous aider à dépasser les problèmes. C'est ce qu'on appelle la philosophie. Or là, l'apôtre Paul, il dit bien dans ce chapitre, avant d'arriver au verset que j'ai lu, au verset 17 du chapitre 1er, l'apôtre Paul dit « Car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. » Il s'adresse là des Grecs, à Corinthe, et dit « Dieu ne m'a pas envoyé pour vous annoncer l'Évangile avec une sagesse qui vient des mots. » Vous voyez, par exemple, Platon, il disait « Ah, il faut chercher le bien, il faut chercher le beau, il faut chercher le grand. » Voilà, tout ça existe dans l'esprit. Donc par l'esprit, il faut chercher ça et pas tenir compte. Ce qui fait que ça donnait deux écoles, les stoïciens et les épicuriens. Les épicuriens, c'est de dire, bon, comme de toute façon, on ne va pas vivre très longtemps, profitons de la vie. Voilà, il faut profiter, puisque de toute façon, la matière, c'est mauvais, mais bon, ça ne fait pas de bien d'avoir un bon repas, d'avoir un bon plaisir et tout ça. Voilà. Donc, ça, c'est une façon d'échapper au matériel. Et l'autre, c'est le stoïcien qui dit, moi, je peux me piquer, je vais me faire piquer par des orties, des guêpes et tout ça, moi, je reste stoïque. Ça fait rien, voilà, je suis au-dessus de ça. Voilà. Donc, vous voyez deux tendances qui sont des tendances qui sont poussées par cette philosophie du langage. On dit voilà, ça me fait rien, et voilà, à force de le dire, ça me fait rien. Et Paul dit je vous annonce l'Évangile, non pas de cette façon-là, mais je vous l'annonce par la puissance de la croix. Voyez-vous la différence entre tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire l'astrologie, la magie, la philosophie? Ce sont des façons de s'expliquer les choses pour essayer de trouver une solution, si possible, mais qui ne satisfait jamais. Alors que la croix, c'est historiquement Jésus, qui est le Fils de Dieu, qui est venu dans l'histoire humaine. C'est un fait. Voyez-vous ? C'est pas une idéologie, c'est pas un langage, c'est pas un discours, c'est pas voilà. C'est simplement un fait historique que Dieu est venu sur terre pour accomplir quelque chose. C'est toute la différence entre l'évangile, qui n'est pas simplement un discours, mais l'évangile qui annonce la vertu de Christ, ce que Christ a fait à la croix pour nous. Et dit-il au verset 18, « Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent. » Effectivement, pour les Grecs, entre autres, à qui cet évangile s'adressait, pour eux c'était folie, que de revenir dans un corps. Christ revient dans un corps, il est ressuscité. Ça, c'était la folie. Pour eux, ils ne pouvaient pas l'accepter. Bon, pour les Égyptiens, pour les Sumériens, c'était autre chose. Mais pour les Grecs, ça, c'était un scandale. C'était un non-sens. C'était quelque chose qui allait contre le fait de ce qu'ils recherchaient. Puisque rentrer dans un corps qui amène tous les problèmes qu'on a eus, c'est fada, quoi. Voilà. Et donc, ils ne pouvaient pas recevoir le message de l'évangile, le message de la croix. C'est pas possible. C'est une folie. Et l'apôtre dit, pourtant, pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Ainsi, écrit-il, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le contestataire de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Etc., etc. Il continue sur la sagesse pour enfin dire Dieu a choisi les choses folles du monde. Dieu a choisi les choses viles du monde. Dieu a choisi. Voyez-vous, la croix est un scandale. Et c'est pour ça que je pense que on dit que les Français avec les Japonais sont les plus durs à convertir à cause de ça. À cause de ça. Parce que le discours de la croix n'est absolument pas admis dans la philosophie. Et c'est pourquoi je pense, et c'est historique, hein, les églises de Pentecôte qui en France ont réussi à toucher les gens, est la seule église qui vraiment a commencé à changer la culture de la France, parce que ça ne reposait pas sur des discours, ça reposait sur des signes et sur des miracles. D'ailleurs, toutes les églises, jusqu'à un passé récent, s'appelaient Viens et Vois. Ça ne s'appelait pas Église Tartampion, ça s'appelait Viens et Vois. C'est marqué Viens et Vois. Viens et Vois. Viens et Vois. Tu rentres et tu vois. Voilà. Et tu vois les miracles, les signes, les produits, etc. Michel, mon épouse, a eu la chance de voir encore la fin de ce réveil. Et tous les dimanches, je voyais des miracles sans arrêt. Donc, voyez-vous, la foi est construite sur la puissance de Dieu. Est-ce que vous voulez des miracles? Amen. Ah ben, demandons-le au Seigneur. Nous ne pouvons pas les provoquer, mais le Seigneur. Et les églises se remplissaient parce que, je sais pas, un frère, c'est même pas le pasteur, un frère simple qui il allait dans une famille, la famille de Michel, et ils sont tous des ressuscités. Elle, sa mère, sa sœur, tout le monde, quoi, là. Et le frère venait en disant, tiens, sois guéri, il repartait, hop, t'es guéri. Voilà. Ah, il passait pas des heures, hein. Juste, ah bah, sois guéri, hop. Il avait tellement peur du père de Michel, parce que t'es un peu, voilà. Il a prié, hop, il a pris la porte, il est parti, et puis lui était guéri. Il dit, mince, il est le frère. Bah oui, ça y est, j'ai été guéri. Bon, bah, il est allé à l'église le dimanche d'après. Voilà. Et comme ça, l'église se remplissait parce qu'il voyait la puissance de Dieu. Vous voyez, c'était pas des discours, c'était la puissance de Dieu. Donc, il faut bien comprendre que la sagesse de Dieu s'appuie sur la puissance de la croix, la puissance de ce que Jésus a fait. Il nous a pardonné nos péchés. Et c'est parce que les péchés sont pardonnés que le ciel est ouvert, que nous pouvons avoir un accès auprès du Père. Les Grecs avaient une vision cyclique du temps. Voilà le temps, hein, qu'ils appellent d'ailleurs chronos, hein, comme le chronomètre, hein, le temps qui s'écoule. Il y avait des naissances, des morts, naissance, mort, naissance, mort. Voilà. Ça, c'est une malédiction. L'essence, la mort, voilà, de génération en génération. Donc, il faut échapper à ça. Et il faut entrer dans la vie éternelle, dans le temps, dans l'éternité. Hein. Il faut rentrer dans l'éternité, hein, par, justement, les belles pensées, le beau, voilà, il faut déjà en esprit. Donc, ils élèvent l'esprit. L'esprit, le discours, ils font des beaux discours. En général, ils cherchaient à faire le plus beau discours pour convaincre. Hein. C'est de là aussi que vient notre façon de l'éloquence, hein, de faire plaisir à l'esprit. Or, l'éternité, bon, je reviendrai plus tard là-dessus, ce terme n'existe pas dans la Bible, c'est une autre chose. Parce que la Bible, elle ne voit pas du tout le temps comme ça. La Bible, elle introduit la notion du temps d'une autre manière. Vous avez le terme qui est utilisé, alors pour ceux qui veulent retrouver dans la Bible, c'est le terme basiléa qui est utilisé, basiléa, pour le règne de Dieu. Ça s'appelle le royaume de Dieu, le règne de Dieu. C'est le terme basiléa. Et celui-là, il a deux formes de compréhension. Et c'est pour ça que l'Église aussi a deux formes de nature à cause du règne de Dieu ici, puisqu'il y a une correspondance entre le règne de Dieu et le règne sur les sujets que nous sommes, sur l'Église. La philosophie chrétienne, si vous voulez, hein, la sagesse chrétienne, ça s'appuie sur la communion, sur la relation. La communion, ça s'appelle la koinonia en grec, dans la Bible que vous avez, c'est la communion. La communion avec Dieu, la communion avec Christ. La communion, c'est pas de penser des choses bien pour qu'elles se réalisent. C'est la communion, c'est la relation. Voyez-vous ? La relation avec Christ. Et c'est lui qui a réglé la question du péché. Parce que le problème qui nous oppose, avec notre nature telle qu'elle devrait être, c'est le péché. Et il faut régler la question du péché. Or, c'est Jésus qui l'a fait, et c'est grâce à lui que nous sommes réconciliés avec le Père. Parce que le péché ne pouvait pas nous permettre d'entrer en relation avec le Père. Et Jésus a réglé cette question-là. Donc, la vision de l'histoire et du temps est différente dans la Bible. Elle se résume par ce terme, donc basiléa, le basiléa de Dieu, hein, donc le règne de Dieu, qui d'ailleurs, j'étais frappé, j'ai réfléchi ces derniers temps, je dis mais pourquoi la notion du règne de Dieu, ça nous paraît évident maintenant parce que c'est marqué partout. Dans Matthieu, je ne sais pas si c'est 300 fois que c'est écrit le règne de Dieu, royaume de Dieu, royaume de Dieu, royaume de Dieu. Et en fait, on l'a découvert en 1974, c'est quand même étonnant. La Bible a été écrite il y a 2000 ans, enfin, Nouveau Testament, et ça a été découvert en 1960, enfin, dans les années après la guerre, je dirais. Pourquoi ? Vous étiez au courant de ça ? Moi, j'ai maintenant un livre, il se détache complètement, je ne peux pas vous le donner, parce que toutes les pages s'envolent tellement je l'ai lu. C'est « La théologie du royaume » de George Ladd. George Ladd, c'est un théologien américain de Fuller Seminary, qui a écrit ce livre en anglais, qui a été traduit en français, et c'est Vaux-sur-Seine qui l'a adopté comme la base de la théologie du Nouveau Testament dans ses cours. C'est vraiment un fondement de la compréhension du royaume de Dieu. Et la CEF, à laquelle nous voulons adhérer, eh bien, a compris aussi cette théologie du royaume. Je dis, mais pourquoi, Seigneur, pendant 2000 ans, on n'a pas compris cette théologie alors que c'est marqué noir sur blanc et que maintenant, ça paraît évident pour tout le monde. Mais je crois que c'est à cause d'une malédiction. Vous savez, quand on est dans une malédiction, on est voilé. C'est-à-dire, il y a un voile. C'est pas possible qu'on ne le comprenne pas alors que c'est clair. Et ça, c'est parce que saint Augustin, entre autres, au IVe siècle, et pas que lui, hein, ils ont développé une théologie qu'on appelle la théologie de la substitution. La substitution, c'était une très bonne idée, si vous voulez, mais malheureusement pas biblique. Pourtant, c'est les pères de l'Église. Hein. Comme quoi, vous voyez, personne n'est parfait. Et la théologie de la substitution, c'était de dire que, comme les Juifs ont mis Jésus à la croix, ils sont damnés. C'est là aussi que vient l'antisémitisme. Ils sont damnés parce qu'ils ont crucifié le Christ. Donc, il faut un nouveau peuple qui prenne le relais. Et le nouveau peuple, c'est l'Église. Donc l'Église remplace Israël. C'est ce qu'on appelle la substitution. L'Église remplace Israël. Voilà. Et à partir du moment où l'Église remplace Israël, eh ben, on prend tous les textes de l'Ancien Testament et du Nouveau, etc., et on l'applique au peuple de Dieu. Ben, le problème, c'est que ça, c'est une erreur. Et l'Église catholique, je sais qu'elle a mené les croisades, elle a mené toutes sortes de choses qui sont antisémites. Et le pape a simplement demandé pardon récemment, donc dans ces années 70, je pense que c'est ça, demandé pardon officiellement à Israël, est allé voir les juifs en disant « on s'est trompé et on retire ça parce que c'était une mauvaise théologie ». Waouh ! Voyez-vous, on enlève le droit TQP et on retrouve la liberté. Et je pense que le voile, entre autres, mais ça c'est mon interprétation à moi, est ôté pour recomprendre les choses. Et même l'Église catholique applique ces principes du royaume maintenant. Je ne parle pas des traditionalistes, il y en a toujours qui tirent en arrière, mais je ne parle pas de ceux-là. Je parle de ceux qui veulent vraiment servir le Seigneur. La notion du royaume est quelque chose qui est à la base de la compréhension de l'Église. Et c'est pour ça que l'Église aussi était dans un voile. Parce que remplacer Israël, ok, ben on se prend pour Israël, donc on a un roi, on a David, on a un monarque, on a, vous voyez, tout ça qui va avec. Donc le pasteur, c'est le monarque, c'est, enfin bon, vous pouvez, après, le prêtre, bon, bien sûr, c'est celui, passage obligé, etc. Enfin, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est plutôt négatif. Je vais chercher à rester positif. Donc, la théologie du royaume, donc du basiléa, du règne de Dieu, est là. Dans la Bible, deux manières particulières de voir les choses. C'est-à-dire le temps, c'est que Dieu règne, il règne éternellement, il règne dans toute la durée des temps. C'est l'alpha et l'oméga. Amen. D'accord avec ça? Pourtant c'est simple, pas grand-chose à comprendre. Mais voilà, ça c'est un fondement indispensable. Le temps, il est linéaire. Il n'est pas en boucle comme ça. Et ensuite, après, sur la terre, il y a un début, c'est Adam, et il y a une fin. Donc, au niveau du temps que nous vivons sur la terre, c'est et il y a des kairos. Alors, le kairos, c'est une intersection entre le temps qui s'écoule et une irruption dans l'histoire. Alors le premier kairos, bien sûr, c'est le premier Adam qui a été créé, la race Adam, puisque le père a décidé de créer la race humaine. Ça, c'est un premier kairos. Le deuxième kairos, c'est Christ qui est venu, le deuxième Adam, qui est mort à la croix et qui a réglé la question du péché. Là, le péché est entré dans la vie, dans la race humaine. Ici, il en est sorti. Okay. Et donc, là, on appelle ça le siècle à venir. Et là, c'est le siècle présent. Ça, c'est les termes qu'utilise la Bible dans la notion du royaume. Le siècle. Or, le siècle, c'est pas une question de temps, justement. Parce que nous, on raisonne comme les Grecs. On raisonne en question de temps. C'est pas qu'une question de temps, c'est une question de domaine. Où s'applique le royaume? À quoi s'applique? À qui s'applique le royaume? Il s'applique à ses sujets. Voyez-vous? Bien sûr, dans l'idéologie, sans Dieu, sans un Dieu relationnel, vous ne faites pas rentrer ces choses-là. C'est que les idées. Donc vous rentrez dans une idée. Sauf que l'idée devient une idole, et elle vous tient ensuite après. Donc nous sommes dans le siècle présent, et ce siècle présent, à partir de Christ, les chrétiens vivent quelque chose de différent. Je reviens juste un petit peu en arrière pour dire que dans l'Ancien Testament, on voyait un centre du monde, un centre du temps, si vous voulez, entre l'alpha et l'oméga, l'éternité, un centre ici, qui était le centre de la venue du Messie. Enfin, le Messie, pas au sens de Christ, mais au sens de... Il y a un point central où il va se passer quelque chose. Et les Juifs attendaient ça. Quand Jésus devait venir, ils attendaient tous que le royaume de Dieu s'établisse. Que ce Messie, qui est le roi, il vienne pour changer les choses. Et ils ont changé, et ils attendaient ça. Et comme ils l'attendaient, c'est pour ça que Jésus, il voulait toujours le pousser à devenir roi. Et d'ailleurs Jésus, à la croix, il a dit, c'est le roi des Juifs. Henri, roi des Juifs. Donc ils attendaient que ce soit le roi des Juifs. Et Jésus n'a pas dit qu'il n'était pas roi. Mais rappelez-vous, la manière dont il a répondu à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc il y avait un problème de compréhension de l'histoire qui n'était pas très clair pour les pères de l'Église aussi. Pourquoi ? Parce que ce qu'il faut voir, c'est que ici il y a bien un centre de renversement, mais avant ça, il y a un autre centre, c'est la venue de Jésus. Donc il fallait attendre celui-là d'abord et celui-là après. Ça, c'est le renversement de l'histoire où effectivement le roi va pleinement régner sur toute créature, toute création sur la terre et dans le ciel. Et c'est pour cela que le vrai schéma qu'il faut comprendre, c'est que Dieu règne dans l'éternité. Il y a ici un début, il y a venue du Christ à la croix. Et ensuite, après, il y a la parousie, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église, la fin de ce monde. Et ensuite, là, c'est l'Église. L'Église, c'est cette parenthèse, Israël, c'est là. L'Église, c'est le peuple de Dieu, la réunion aussi bien des Juifs que des non-Juifs, que de tous, un seul peuple, qui vit dans le royaume de Dieu. Donc par la foi, nous vivons dans le royaume. Et ici, eh bien, nous devons mettre en pratique les manifestations du royaume, l'expérimentation du royaume. Nous devons goûter au royaume en attendant que le royaume soit pleinement accompli, pleinement établi. Ici, Jésus l'a introduit dans le monde et ici, il va l'accomplir pleinement. Nous avons deux textes qui parlent de ça, c'est Matthieu 6, que vous connaissez bien. Matthieu 6, c'est Jésus qui apprend la prière à ses disciples. Les disciples ont vu que Jésus était très efficace dans la prière, quand il priait son Père. Et ils ne lui ont pas demandé, apprends-nous à faire des miracles. Il a dit, apprends-nous à prier. Et alors, c'est très intéressant, vous savez, très souvent, quand vous voulez aider quelqu'un, vous attendez qu'il vous pose des questions. Parce que c'est plus facile à lui répondre, parce qu'il est déjà attentif, puisqu'il veut savoir une réponse. Et tous les rabbins, les juifs, etc., ils ont cette sagesse en disant, un enfant intelligent pour eux, c'est pas un enfant qui sait tout à l'école, c'est un enfant qui pose des bonnes questions. Ouais. Donc, apprenons à poser des questions au Seigneur, parce que nous sommes à l'écoute. Et les disciples ont posé cette question, apprends-nous à prier. Et comment Jésus leur apprend à prier ? Il dit que notre Père qui est aux cieux, et vous ? Notre Père qui est aux cieux, le Père, il est ici au ciel, et il règne. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, etc. Et où que ton règne vienne ? Il règne. Mais sur la terre, donc ici c'est la terre, ici c'est le ciel, sur la terre que ton règne vienne. Et Jésus, qu'est-ce qu'il disait quand il prêchait l'évangile, quand il prêchait, au moment où il commençait son ministère, après Jean-Baptiste, qui d'ailleurs lui aussi a prêché la même chose, il a dit, le règne, le royaume de Dieu, le basiléa, le royaume de Dieu, est venu se rapprocher de vous. Il est venu se rapprocher. Il n'est pas encore venu pleinement. Il est venu se rapprocher. Donc il y a une mesure de règne qui est venue. Bien sûr, en Christ, il est venu pleinement dans sa personne. Mais ce n'était pas le monde entier. Jésus était localisé dans une personne. Et son règne est venu. Il a dit, demandez que son règne vienne. Et nous, dans notre prière, nous devons demander que nous, ici-bas, l'Église ici-bas, donc vous voyez que l'Église, elle a deux facettes, elle a une facette ici-bas et en haut, hein, puisque nous naissons d'en haut et nous vivons sur la terre. Et donc, nous avons cette double identité, l'identité du ciel et l'identité de la terre. Et le terme basiléa, justement, parle de ces deux aspects. Ton règne est éternel, Seigneur, mais que ton règne vienne sur la terre, qu'il vienne dans ma vie, qu'il vienne dans ma famille, qu'il vienne dans mon travail, qu'il vienne... Et oui, c'est ça la prière. Que ton règne vienne, Seigneur, que ton règne vienne. Et ça, c'est une prière que nous ferons jusqu'à la parousie, jusqu'à ce que le Seigneur va nous enlever de la terre et régler la question définitive de l'histoire humaine et mettre un trait là-dessus. Le principal mission de Jésus quand il est venu sur la terre, c'est quoi? Pourquoi, Jean-Claude, Jésus, vraiment, la première mission qu'il est venu faire, c'est quoi? C'est quoi, pourquoi le règne de Dieu est venu sur la terre, essentiellement? En dehors du fait qu'il a réglé l'histoire du péché. Ben, c'est détruire Satan. Écrivez-le dans vos notes. C'est extrêmement important. Le combat spirituel n'est pas un combat que l'Église doit mener sur la terre. C'est un combat qui a été réglé par Jésus. La preuve, vous en avez tout le Nouveau Testament. La première chose auquel Jésus a été confronté quand il a été baptisé et il est sorti du désert, c'est avec Satan. Directement avec Satan. Il n'a pas commencé avec les hommes, il n'a pas commencé avec les disciples, c'est avec Satan. Le problème, c'est avec Satan. C'est pour ça que nous ne devons pas nous occuper de Satan. Jésus s'en est occupé. Et il lui a réglé son compte. C'est terminé. Il est vaincu à la croix. Amen. Donc le combat spirituel ne doit pas nous préoccuper outre mesure. Il y a des manières de combattre, etc. Mais le combat spirituel, c'est que le règne de Dieu est venu sur la terre parce que le diable avait pris du droit, le droit sur la terre. Il fallait régler ce droit par la justice accomplie à la croix. Que ton règne vienne. Vous voyez donc, le règne, il existe éternellement et il doit venir sur la terre. Donc l'Église est déjà, lorsque nous sommes en Christ, lorsque nous sommes nés de nouveau, c'est-à-dire nés d'en haut, nous sommes avec Christ et nous sommes dans son règne. Deux, quand nous sommes, après, en tant que chrétiens, nous pouvons nous refroidir, ce qu'on appelle backslider, comment ça se dit ça, rétrograde, voilà, on rétrograde. Vous upgradez, c'est ça, hein? Quand on monte une montagne, c'est vrai qu'il faut rétrograder, rétropédaler, non, je sais pas quoi. Enfin, non. Oublié, c'est pas bon comme image. Voilà, on a tendance à rétrograder parce que on oublie notre premier amour. Vous voyez, c'est comme quand on est amoureux. Ah, oh là là, on décrocherait la lune, c'est ça. Et puis au bout d'une semaine, déjà, on la décroche plus tellement. Voilà. Non, non, il faut rester amoureux avec Jésus. Hein, et c'est ça le challenge, c'est ça le défi. Hein. Parce que Jésus, nous savons qu'il c'est le meilleur, nous savons qu'il est puissant, nous savons. Mais petit à petit, les choses du monde, les choses matérielles, reprennent le dessus. Voilà, donc restons dans la foi. C'est dans la foi que nous saisissons les promesses. C'est dans la foi que nous sommes en Christ. C'est dans la foi que nous marchons, nous sommes plus que vainqueurs. C'est par la foi que nous avons la victoire sur nos ennemis. Hébreux 11. Alors, par la foi. Donc nous sommes dans l'Église universelle. D'accord? L'Église de Christ. Et il n'y en a qu'une Église. L'Église de tous ceux qui sont rachetés. Jésus n'a pas un tas de petites églises comme ça. Non. Il a un corps qui, sur l'ensemble de ces 2000 ans déjà, et plus si le Seigneur tarde à revenir, et de tous les continents et de toutes les nations, forme son peuple. Donc nous sommes dans ce règne. Le deuxième règne, deuxième notion de basiléa, hein, que vous retrouvez, c'est-à-dire, vous savez, je prends le grec, pourquoi? Parce que j'ai pas d'autres mots que ceux qui sont écrits dans la Bible, la Bible grecque, qui était reconnue comme inspirée de Dieu. Et ce terme-là, en fait, il a plusieurs. Comme amour, il a plusieurs termes, etc. Donc à chaque fois, il faut expliquer que le terme basiléa, le terme règne, s'applique à différents stades. Le deuxième stade auquel il s'applique, c'est Luc 19, 10, qui est un autre type de règne. C'est de bénéficier des bénédictions du royaume. Dans Luc 19, 10, ou 11 plutôt, Jésus dit cette parabole. Alors qu'ils écoutaient, il ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on pensait que le royaume de Dieu devait apparaître à l'instant. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour recevoir la royauté et revenir ensuite. Voyez-vous, un homme de haute naissance, c'est Jésus, il parlait de lui. Un homme de haute naissance est venu, il doit aller au ciel, donc auprès de son père, chercher la royauté pour régner sur la terre, parce qu'il est venu en serviteur, il n'est pas venu en roi, bien qu'il soit roi. C'est pour ça qu'il a laissé son nom sur la croix, le roi des Juifs, parce que c'est vrai. Mais ce n'était pas vrai à ce moment-là. Ça serait vrai à la fin des temps. Roi de toutes les nations, roi de son peuple. Et donc il est parti en voyage, comme il dit, et ce voyage, c'est la durée de l'Église, c'est le temps de l'Église. C'est cette durée dans laquelle nous attendons le retour de ce roi. Et là, toute la parabole que je ne vais pas lire, du premier chapitre, du verset 13 au verset 27, il parle de la gestion. Donc vous voyez, là c'est une église qui est dans la foi, et ici c'est une église qui doit être dans la gestion. Ah, vive nos gestionnaires. Eh oui, c'est deux natures différentes, qui en fait font une seule. La dernière fois, pour illustrer ça, j'avais pris les poupées russes. Voilà. Ça, c'est l'Église. OK ? C'est l'Église. Le problème, c'est que l'Église, voilà, c'est l'Église aussi. Et pourquoi j'ai deux objets qui symbolisent l'Église ? Pardon ? Oui, parce que je reviendrai à la notion de famille, là c'est la notion du règne. Mais ça s'applique aussi au règne, ça s'applique aux familles. Là je vous perturbe un peu parce que ce n'est pas la continuité dimanche dernier sur les familles. Mais je reviendrai à la notion de famille. Parce que la famille, c'est l'aspect fonctionnement de l'Église. Là c'est l'aspect organisation. Comment l'Église est organisée ? Elle est organisée parce qu'elle a deux facettes. Elle a une facette universelle, c'est-à-dire nous appartenons au corps de Christ. Alors, vous y êtes ? Tu fais partie du corps de Christ ? Oui, parce qu'on est en Christ. Et le corps renvoie à la notion de relation. Relation. Voyez-vous, le pouce est en relation avec mon corps, avec ma tête. Okay ? Mes orteils, mon foie, tout ça, c'est en relation. En relation avec quoi particulièrement ? Avec la tête. Donc ici, la tête, c'est Christ. Le chef de l'Église universelle, c'est Christ. Voyez-vous ? Donc là, ça nous montre l'organisation de l'Église universelle, qui est le corps de Christ, qui, elle, se trouve à ce niveau-là, dans le ciel. C'est pour ça que nous sommes appelés des saints, la compagnie des saints. Et ça, c'est un sacerdoce, c'est-à-dire c'est l'organisation sacerdotale, c'est-à-dire c'est sacré. C'est sacré. C'est pour ça que la Sainte Cène qui renvoie à ça, le baptême qui renvoie à ça, on ne peut pas s'amuser avec ça. C'est très grave. Et dans certaines églises, il y a eu même des morts, comme le dit l'apôtre Paul, parce qu'on ne peut pas jouer avec ça. On ne peut pas jouer avec ça. Ça, c'est l'Église universelle. Mais dans l'Église universelle, il y a l'Église locale. Voilà. Et l'Église locale, vous voyez, ce n'est pas la même couleur, hein, parce que ce n'est pas la même organisation. Là, c'est la gestion. La gestion de quoi ? Je vais poser la question à Christelle. Les ressources humaines. Rappelez-vous la gestion des ressources humaines. Alors, c'est moderne ça comme concept. Oui. C'est-à-dire que chacun de nous, nous devons être gérés d'une certaine manière. Et cette gestion doit se faire dans le cadre du règne de Dieu. d'appeler le règne de Dieu sur la terre, donc le royaume de Dieu, donc les lois du royaume, vivre en fonction des lois du royaume. Et là, c'est un exercice pratique, un exercice d'application pratique, une expérimentation du royaume de Dieu. Et là, il faut de la sagesse. Pas la sagesse dont j'ai parlé des Grecs, mais c'est une sagesse pratique de gestion. Hop, il y a mes poupées qui s'en vont. Voilà, donc vous voyez deux natures d'église avec deux organisations différentes. Ici, c'est un corps, donc un corps qui est en relation avec Christ. Et là, effectivement, c'est le fonctionnement d'une maison. Alors, quelle maison ? La maison, c'est une famille. Sauf que c'est une famille qui a un patrimoine. Comme je le disais, par exemple... Sylvie m'a bien suscité le champagne Mercier. Il y a d'autres champagnes. C'est des maisons. C'est des maisons parce qu'ils ont un capital, ils ont un patrimoine, et voilà, ils peuvent sortir du champagne tous les ans, et ils ont du bénéfice et tout ça. C'est une maison, un patrimoine. Et le fils Mercier ou le petit-fils Mercier, ben, s'il ne gère pas bien, paf, ça va péricliter et ça va rester une famille. Famille Mercier. Mais ils vont perdre le titre de maison. Donc la maison est un qualificatif qui va plus loin que la famille. La famille, elle est là. Vous voyez ? La famille, ça existe aussi. Hein ? Et vous rappelez que je vous ai dit que Éphésiens 3:15, l'apôtre dira dans Éphésiens 3:15, je fléchis le genou devant le Père, de qui toute famille tire son autorité. Donc la famille, Dieu l'a inventée, bien sûr. Puisque la première famille, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et les sujets que nous sommes. Donc, c'est la famille qui est en bleu. Ça, c'est une famille divine. Nous faisons partie de la famille divine. Okay. Ça, c'est une famille naturelle. Hein. Le seul problème de cette famille, c'est que le Père, c'est Adam. Adam, et qui a chuté. Donc, nous bénéficions de sa chute et des imperfections de cette famille. Donc il y a des grosses difficultés dans la famille naturelle. Parce que le Père, qui devrait refléter le Père céleste, très souvent il reflète ses blessures, il reflète la mauvaise image qu'il avait du Père et qu'il reproduit avec les enfants, il reflète tout un tas de choses qui ne vont pas. Et les gens sont écœurés des familles, de la famille, parce qu'elle ne va pas bien. Qu'il y ait des divorces, qu'il y ait des choses qui ne vont pas. Mais si dans cette famille on applique la repentance, ça va très bien. Mais ça, il faut de l'humilité et il faut se soumettre à la parole de Dieu. Amen. Donc ça, c'est la famille, bien sûr, qui est naturelle. Et ça, c'est la famille de Dieu. Ça s'appelle la maison de Dieu. Et là, ce sont les épîtres pastorales qui en parlent. C'est dans Timothée. L'apôtre dit, si je m'en vais, si je viens ou si je ne viens pas, j'espère que, que vous conduirez dans la maison de Dieu, qui est la colonne et l'appui de la vérité. La maison de Dieu, le patrimoine de la maison de Dieu, c'est la colonne et l'appui de la vérité, le fondement de la vérité. Mais dans cette maison-là, ce n'est pas une famille naturelle, c'est-à-dire ce n'est pas l'héritage par le sang, c'est une association de personnes qui s'associent. Donc c'est le mode organisationnel de l'association où on s'associe, on fait un partenariat ensemble. Ça s'appelle le commun accord. C'est acte 2, 43. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils priaient, ils faisaient des choses, ils mettaient tout en commun, etc. C'est ça. Mais ils se sont associés et ce n'est pas le sang naturel qui les réunit, c'est le sang. Les liens fraternels de fraternité selon les lois du royaume. Donc il faut tous se conformer à ces lois et gérer la maison de Dieu comme elle doit être. C'est-à-dire, c'est quoi normalement l'objectif de la famille naturelle, Bruno ? Un des objectifs principaux. Pourquoi Dieu a créé une famille naturelle ? Dieu aime les familles. Pourquoi, à ton avis, il a créer cette famille naturelle particulièrement? Ben, c'est pour protéger les enfants. Les enfants, ils sont faibles. Vous avez vu les petits bébés? Vous les laissez comme ça Récemment, là, il paraît qu'un garçon de 6 ans, hop, il a pris le train et il est parti à Lyon. Voilà. À 6 ans, hein, il est parti des domiciles familiales. Les enfants sont vulnérables. Okay. Donc Dieu veut protéger. Et la famille est là pour protéger. Et le Père devrait avoir ce cœur de Père, comme le Père céleste, de donner sa vie, comme il la donne à sa femme d'ailleurs, et comme il la donne à ses enfants. C'est une fonction sacrificielle, une fonction de sacrifice, sacrificielle, donner. C'est la fonction du berger. Le Père naturel, ici, qui est l'autorité que Dieu a mis en place, il devrait donner sa vie, être un sacrifice pour sa vie, c'est tout. Il devrait penser qu'à ça. Et ça, c'est notre Père céleste qui pense à nous comme ça. Il a donné Jésus en sacrifice, son Fils, il a donné en sacrifice pour nous. Alors, vous êtes avec moi? Et ça, il voudrait que ce soit ça. Et qu'est-ce que ça a donné avec le péché? Ben, c'est le modèle du patriarcat. Quand c'est pas le machisme et tout ça, voilà. Le patriarcat, c'est le patriarche, voilà, qui impose ses lois, qui impose ses points de vue, etc. Non, ça doit être un modèle de patriarcat collaboratif. Il collabore avec son aide, qui est sa femme, il collabore avec ses enfants, on est collaboratif. Là, on vivrait vraiment dans la pensée du Seigneur. Alors, vous voyez, dans les épîtres pastorales, ils vont tous tomber, dans les épîtres pastorales, pour expliquer comment l'Église, ici, sur la terre, doit fonctionner, bon, ici, là, de rouge, il prend quoi comme exemple? Dans les épîtres pastorales, Timothée, Tite, comme exemple de fonctionnement, d'organisation. Ben, il prend ce modèle-là. Mais si ce modèle-là n'est pas bon, effectivement, on ne peut pas réussir celui-là. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire, ici, tu nommeras des anciens, des aînés. C'est des gens qui ont de la bouteille, c'est des gens qui ont de la sagesse, c'est des gens qui ont réussi ça. S'ils n'ont pas réussi ça, ils ne peuvent pas réussir ça. C'est ça. Le modèle pour les anciens, c'est avoir réussi correctement sa famille. Puisque une famille, je sais que il y a encore quelques années, il y a des familles qui montaient à 22, 23 enfants. Ben, c'est plus le cas maintenant. Hein. Donc on peut effectivement arriver à une mini église de 22 personnes. Mais c'est plus le cas maintenant. Mais voilà, l'église est un peu plus grande que la famille. Et il faut avoir réussi ça pour réussir ça, puisque c'est un modèle de gestion. Là, il faut faire réussir les enfants. Le faire entrer dans leur destinée. Vous êtes d'accord que les parents, c'est ça leur objectif. Mais là, c'est quoi? Ben, c'est la même chose. Il faut faire entrer les personnes qui sont dans l'église à entrer dans leur destinée. C'est ça l'objectif. L'adoration, la louange, la parole, c'est dans l'autre église que ça se passe. C'est ici. Ça, c'est le modèle du sacerdoce. Sacerdoce, c'est le modèle de la gestion. Et c'est pas organisé pareil. Ici, il y a des pères. Ici, il n'y a qu'un seul père, c'est Dieu. C'est pas le pape. C'est pas le pasteur. C'est rien de tout ça. Le pasteur, c'est un don que Jésus a donné à l'Église, Éphésiens 4, il a dit, il est descendu en enfer, il est remonté au ciel, il a emmené des dons, il a redonné les apôtres, les prophètes, etc. Ça, c'est les dons de perfectionnement des saints, c'est-à-dire pour perfectionner dans la parole de Dieu. Amen. Mais pas pour gérer, c'est pas pour des dons de gestion. Amen. Alors pour revenir à Luc 19, donc Luc 19, c'est la mission que Dieu donne à l'Église qui se réunit, qui s'associe sur des valeurs et des principes du royaume pour développer les dons. C'est les mines ou les talents. Bon. Les talents, c'est 100 mines, je crois. Donc c'est un centième. Les mines, c'est un centième d'un talent. Mais que ce soit la parabole des talents, la parabole des mines, ou la parabole, voilà, c'est des ressources que vous avez reçues. Vous avez tous reçu des dons. Et dans cette église locale, l'autorité des anciens est des anciens. La différence ici, c'est que il y a un père, et là, il y a des pères. Voyez-vous ? Pourquoi ? Parce que c'est un modèle associatif. C'est un modèle communautaire. C'est une communauté. Donc, ça doit être plusieurs pères qui doivent s'entendre. Déjà, c'est pas évident. Donc, si un père, il s'entend pas déjà avec sa femme, il va pas s'entendre avec l'ancien qui est à côté de lui. Voyez. Donc c'est un test, c'est sûr. Mais Dieu ne le fait pas sous forme de test. Dieu veut racheter. Il veut que cette église-là soit un modèle pour cette église-là. Vous voyez, normalement, cette église-là, ce modèle parental, c'est bien, si les parents sont chrétiens, mais tous ne sont pas chrétiens. Et tous n'ont pas le réflexe d'être de bons parents, selon les modèles du royaume. Donc ils sont aidés par celle-là. Donc l'église locale devait être un exemple parfait d'une parentalité parfaite. Pourquoi ? Parce que nous sommes plusieurs à veiller les uns sur les autres pour appliquer les principes du royaume. Et quand là nous serons excellents, eh bien ça fera tout un tas de familles excellentes, puisqu'elles vont regarder à l'église comment elles marchent et ils vont marcher pareil. Et oui, c'est ça l'objectif. Ça, c'est la famille restaurée en Jésus-Christ. Ça, c'est la famille déchue, adamique. Ça, c'est le nouvel Adam. Amen. Alors, je vois que l'heure est passée. J'avais tout un tas de petites slides de projection à vous montrer qui expliquent ça. Mais je ne peux pas le faire. On le refera une nouvelle fois. Hein, vous voulez bien ? Parce que ça devait expliquer ça, mais je préférais le montrer sous forme imagée, hein, et ensuite après vous l'aurez sous forme graphique, parce que des fois on a du mal à imaginer les graphiques, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Voilà, donc l'Église a, en relation avec le règne de Dieu, hein, qui le règne s'exerce dans le ciel de manière éternelle, il s'est toujours exercé du début jusqu'à la fin. D'ailleurs, il n'y a pas de début ni de fin. Dieu règne éternellement, mais il règne. Et sur la terre, eh bien, le règne, c'est nous qui devons l'appeler, ce règne. C'est nous qui devons le vivre. C'est nous qui devons l'incarner, si vous voulez. Et pas seulement dans l'Église. Parce que l'Église, c'est le moment de l'Église universelle, l'Église corps de Christ, où on adore le Seigneur. Mais c'est quand tout sort d'ici que tout commence pour cette Église-là. Voyez-vous, cette église-là, elle a 6 jours devant elle, et celle-là, elle a 1 jour. Bon, je résume, hein, c'est pas très théologique ce que je dis, mais c'est pratique. Hein. Là, nous sommes ambassadeurs du royaume. Ambassadeurs, ça veut dire qu'on nous va dans un pays qui est hostile, et y compris notre propre famille, et très souvent, avec notre famille, moi je sais que quand moi je me suis converti, c'est ma propre famille qui a commencé à me détruire. Voilà. Mes parents, mes frères et sœurs. D'ailleurs, mes frères et sœurs, ça fait 45 ans que je suis converti, ils n'en sont toujours pas revenus. Hein. Mes deux frères, bon, ils me parlent juste parce qu'ils sont gentils, ils sont sympas, tout ça, mais ils ne veulent rien savoir de moi. Parce qu'ils ont encore ça en travers de la gorge. Pourquoi ? Parce que j'ai, pour eux, renié la tradition familiale. Bon, il n'y a que ma sœur qui a compris que c'était pas comme ça, donc elle va venir encore en octobre, elle a une bonne relation, elle m'appelle, on a une discussion franche avec elle. Mais mes deux frères, toujours pas, hein. Mes parents sont morts, eux, ils l'ont toujours en travers, alors que mes parents se sont réconciliés avec nous, parce qu'ils ont vu, qui on était. Voyez, mais voilà, on n'a pas adopté la relation traditionnelle du patrimoine qui est transmis. Waouh, le patrimoine, c'est quelque chose, hein, c'est saint. Hein, on l'élève, la sainteté. Non, adoptez le patrimoine du corps de Christ et traduisez-le dans l'Église et ensuite dans la famille. Voyez-vous ? Je sais que les gens qui sont hostiles à ce discours, ils n'aiment absolument pas un verset. Je ne me rappelle plus où est-ce qu'il est, je n'ai plus la référence. Le verset qui dit, si c'est Matthieu, je crois que ça me revient. Attendez, peut-être que je vais le retrouver. Et avec un peu de perspicacité, je vais le retrouver. Mes téléphones sont allumés. De toute façon, je vais bientôt m'arrêter. Bon, je ne retrouve plus. Je sais que c'est dans Matthieu, dans Luc, où Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, voyez-vous, à chaque fois, il prenait cet exemple-là pour savoir celui qui veut être disciple. Si quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il renie son père, sa mère. Waouh. Ses enfants, ses machins, etc. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que la tradition familiale, tout ça qui ont une valeur absolue devant ceux qui sont là en train de nous regarder, et si on ne suit pas, eh bien, voilà, ils nous traitent de secte, ils nous traitent de tout ce que vous voulez. Ben. Mais Jésus l'a dit. Parce que c'est le royaume de Dieu c'est les valeurs du royaume qui doivent prévaloir. Et ensuite, après, elles rebondissent et elles bénissent la famille naturelle et elles purifient les traditions. Elles gardent ce qui est bon, elles écoulent ce qui est mauvais, etc. C'est dans ce sens-là. Et donc, on est une bénédiction pour la famille naturelle. Vous voyez ? Il ne s'agit pas de les fuir, il s'agit de les mettre en relation à ce que nous vivons. Non pas trop avec nos paroles, on peut répondre aux questions, mais il ne faut pas les devancer. Mais par nos actes, et même s'ils ne reconnaissent pas nos actes, ce n'est pas notre problème, c'est leur problème. Jésus, il pouvait être reconnu par ses actes, et il y en a qui l'ont renié. Jeune homme riche, il est parti. Il était attaché à sa tradition, alors qu'il aurait pu suivre Jésus. Et vous, c'est pas la figure que nous avons, c'est le cœur. Est-ce que nous voulons nous attacher au Seigneur ? Et si nous voulons nous attacher au Seigneur, eh bien, tout le reste pâlit, peu à peu, comme le dit cette chanson chrétienne. Les choses pâlissent peu à peu, parce que c'est le règne de Dieu dans chacune de nos vies. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te bénissons. Parce que Seigneur, nous savons que toi, tu es notre sagesse. Et cette sagesse, elle confond la sagesse du monde qui est une folie pour toi, parce qu'elle n'a aucun sens, elle n'a aucun fondement de réconciliation. Elle a simplement une capacité de fuir la réalité, de fuir le monde, de fuir les choses. Mais Seigneur, nous ne voulons pas fuir, nous voulons simplement les vivre et vivre à la manifestation de ton royaume dans nos vies, chaque jour, à la maison, au travail, en voiture, n'importe où, Seigneur, parce que tu es là et que nous le reconnaissons. Alors aide chacun de nous, Seigneur, à rentrer dans cette réalité pour que ton nom seul soit glorifié, Seigneur, parce qu'à toi toute la gloire. Ce n'est pas nous, mais c'est toi qui, au travers de nous, peux opérer des choses merveilleuses, Seigneur. Sois glorifié dans le nom de Jésus. Amen.